Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité sera Hakim El Karoui, auteur de L'avenir d'une exception aux éditions Flammarion. Alors imaginez-vous que nous allons écouter Hakim El Karoui pendant 3 semaines. C'est qu'il a écrit un livre riche, novateur dans les mises en relation qu'il fait, un livre dense, mais dans le bon sens du terme. Hakim El Karoui se présente lui-même comme celui qui a été la plume de Jean-Pierre Raffarin, et ça pourrait faire grincer les dents de certains. Mais qu'importe, ce qu'il dit, ce qu'il propose est plus qu'intéressant, et vous constaterez, comme moi, que quoi qu'investi dans la politique, jamais il ne perd de vue ce qu'on pourrait appeler les humbles et la nécessité que tous puissent vivre dignement. Mais plus intéressant peut-être que le fait qu'il ait été la plume de Raffarin, il est ancien élève de l'école normale supérieure et agrégé de géographie. Pas économiste, géographe. Et c'est sans doute ce qui lui permet de mieux penser le monde en tant qu'ensemble géopolitique divers, ce qui est essentiel pour comprendre la mondialisation et ce dont il va témoigner dans la première plage d'intervention. Je lui avais dit que je laissais parler mes invités sans les interrompre. Il en a profité au maximum. C'est parti pour 10 minutes de réflexion.
Donc vous êtes un de ceux qui permet l'émergence dans le débat de la thématique du néoprotectionnisme en opposition au libre-échange intégral. Qu'est-ce qui justifie pour vous la nécessité du protectionnisme à l'heure actuelle ?
Vaste question. Je crois que la première chose à voir, c'est l'évolution des rapports de force internationaux. Parce que c'est vraiment là que se situe le cœur du sujet, et c'est aussi par cet intermédiaire, je pense, qu'on peut avoir une approche qui n'est pas idéologique, même si je réfute pas du tout l'idéologie. L'idéologie, c'est jamais qu'une façon de mettre en forme le monde, donc tout le monde a une idéologie. Mais moi, je ne suis pas favorable ou défavorable au libre-échange en tant que tel. Je pense que ce n'est pas le sujet. La question, c'est est-ce que ça marche ? Dans une réflexion politique, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a la bonne solution face à la réalité ? Et donc, il faut partir de la réalité. Et la réalité aujourd'hui, je pense qu'en Occident, on a un peu du mal à l'admettre. Je crois qu'on la voit, mais on n'admet pas ses conséquences et ses fins dernières. Moi, je crois qu'on est rentré dans une nouvelle phase de la mondialisation, qui est d'une certaine manière une troisième mondialisation, si on considère que la mondialisation britannique au 19e et puis la mondialisation américaine dans la seconde partie du 20e siècle et surtout à la fin du 20e siècle se sont achevées avec en fait un rééquilibrage des puissances au niveau mondial. Jusqu'à il y a 5 ans peut-être, les États-Unis ou 2003, à mon avis la césure c'est la guerre en Irak et évidemment pas le 11 septembre. Jusqu'en 2003, on a l'idée que le monde est organisé autour des États-Unis, avec une image que j'aime bien, qui est celle du système solaire, avec un soleil américain d'une certaine manière, et puis des planètes qui tournent autour, avec une positivité ou une négativité vis-à-vis des États-Unis, mais qui en tout cas tournent autour, et qui se positionnent par rapport à eux, en pour ou en contre. Et puis à partir de 2003, en fait avec l'émergence de la Chine, beaucoup plus qu'avec les événements au Proche-Orient, on se rend compte que les États-Unis se rendent compte que, et ça Emmanuel Todd l'avait bien montré dans Après l'Empire, que eux qui se croyaient indispensables sont devenus dépendants sur le plan économique, que eux qui se croyaient invincibles sur le plan militaire sont devenus vulnérables, en Irak évidemment, mais aussi en Afghanistan, on l'oublie trop, hein, où il y a eu cette guerre suivie d'une occupation, c'est pas le mot, mais en tout cas le nation building américain qui échoue avec des Américains qui se désengagent aujourd'hui, qui se sont désengagés au profit de l'OTAN et qui réussissent plus à tenir leur vieille doctrine militaire qui était celle des deux théâtres. À l'époque, c'était un théâtre européen, un théâtre asiatique face à l'Union soviétique. Ça s'était transformé en l'occurrence en un théâtre afghan et un théâtre irakien d'intervention militaire. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'en Afghanistan, ils se sont désengagés. En Irak, tout le monde connaît la situation. Et que donc, même sur le plan militaire, même avec le plus gros budget militaire américain depuis 1947, c'est-à-dire vraiment un état de guerre, les Américains ont plus la capacité stratégique d'intervention absolue. Et puis, le troisième enjeu, je pense qu'il est moral. Et là aussi, on le voit bien, l'Amérique était la patrie de la liberté, est devenue d'une certaine manière la patrie de l'oppression. avec des événements comme Guantanamo, qui à mon avis sont graves pour l'image de l'Amérique, mais qui sont surtout graves pour l'image que l'Amérique a d'elle-même, quoi. Puis on peut le voir aussi dans l'évolution de la criminalité, l'évolution du nombre de condamnés à mort. Cette crise morale américaine, qui se traduit pas par un délitement américain, ça j'y crois pas, parce qu'il y a toujours une capacité politique, une capacité à faire nation qui est importante, qui est une vraie puissance, mais qui en tout cas dit bien que c'est la fin de l'hyperpuissance américaine dont parlait Védrine. Donc ça c'est l'Amérique. La deuxième chose, c'est la Chine. Alors je prends la Chine parce que c'est le pays emblématique, c'est le plus important, c'est celui avec qui l'imbrication avec les États-Unis est la plus importante, mais en fait c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil, c'est bientôt le Vietnam, etc. C'est l'idée que dans les nouveaux pays émergents sont en train de construire un nouveau rapport de force international dont la meilleure scène est à mon avis l'OMC, pour une raison simple, c'est qu'à l'OMC un pays égale une voix. Et on se rend compte qu'à l'OMC, l'alliance entre l'Amérique et l'Europe ne permet plus aujourd'hui de faire passer des décisions. Les pays émergents, alliés entre eux, alliés avec des pays occidentaux ou industrialisés, réussissent à bloquer les décisions. Et quand on voit après, plus dans le détail, l'imbrication financière entre les États-Unis et la Chine, le fait que 20% des biens de consommation américains, enfin, consommés aux États-Unis sont importés de Chine, le fait que la Chine a aujourd'hui 1100 milliards ou 1200 milliards de dollars de réserves dans les caisses de sa banque centrale, le fait que les États-Unis, je crois, ont un déficit commercial de à peu près 200 milliards de dollars vis-à-vis de la Chine, tout ça, ça dit que, en fait, les Américains peuvent envoyer Paulson, le secrétaire au Trésor, peuvent envoyer Bush pour dire aux Chinois, réévaluez votre monnaie, etc. Les Chinois ne le font pas parce que tout simplement, c'est eux qui tiennent le dollar. Aujourd'hui. Puis comme en plus ils ont beaucoup d'actifs en dollars, c'est pas leur intérêt, c'est doublement pas leur intérêt de réévaluer leur monnaie. Donc on a ce rééquilibrage entre l'ancien Sud et puis l'ancien Nord, et on a un schéma, si je reprends l'image du système solaire, où on passe d'un soleil à plusieurs soleils et qui vont être plus petits, qui vont être régionaux à l'échelle de la planète, donc autour des États-Unis, autour de l'Europe, autour de l'ensemble sino-japonais qui a vocation à se rapprocher, même s'il y a des vraies tensions politiques et stratégiques internes, et puis peut-être autour d'un ensemble indien ou brésilien. Enfin bon, tout ça va continuer à se reconstruire. Et puis enfin, il y a un événement qui occupe beaucoup l'actualité, mais qui me semble, moi, d'un point de vue géopolitique, assez mineur, mais qui est important pour les consciences et pour la façon dont l'Occident se voit, qui est la crise de transition des sociétés arabes, qui se traduit par un anti-occidentalisme extrêmement virulent, sur lequel on pourra revenir plus tard, mais puisque j'essaye de vous parler du protectionnisme, je crois que c'est vraiment ça l'enjeu. Donc le rééquilibrage entre le Nord et le Sud d'un point de vue notamment économique. Et sur le plan de la régulation économique, c'est une conséquence majeure, qui est celle que la vieille idée, qui n'a jamais été théorisée en tant que telle, mais qui me semble moi assez juste, ce que j'appelle l'inégalité protectrice, à savoir que en fait on a à gagner à l'inégalité entre le Nord et le Sud via les avantages comparatifs, donc la spécialisation, la division internationale du travail. Je pense que cette vieille idée ne fonctionne plus, parce que si on prend la Chine, on se rend compte que en théorie les salaires doivent monter en Chine, sauf que avec l'armée de réserve des travailleurs peu qualifiés, le fait qu'il y ait 130 millions de travailleurs migrants, etc. Il y a un stock considérable qui permet aux industriels chinois de garder un salaire peu qualifié extrêmement bas. Et quand on regarde les chiffres, ce salaire-là n'augmente pas. Du coup, ça pèse sur les salaires européens. Ensuite, il y a normalement un nouveau marché devrait émerger en Chine. Il y a un nouveau marché clairement pour les produits de luxe, enfin parce qu'il y a vraiment une nouvelle classe lié à l'hypercapitalisme chinois, etc., importante. Et je voyais un dirigeant d'Hermès récemment qui me disait on vend beaucoup de cravates en Chine, Hermès c'est sûr, mais il n'y a pas beaucoup la classe moyenne ne se développe pas. Pour une raison simple, c'est qu'il y a, je crois, à peu près 50% de taux d'épargne, qui est lié au fait que, au choix du système hypercapitaliste chinois, au sens où il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de couverture maladie, donc les gens épargnent considérablement pour leur avenir, pour leur famille, etc. Donc la classe moyenne évidemment se développe, mais elle se développe pas à la vitesse à laquelle elle devrait se développer. Du coup, le nouveau marché chinois, d'une certaine manière, se fait attendre. Ensuite, il n'y a pas de spécialisation des Chinois dans la faible valeur ajoutée. Donc tout ce qu'on entend sur la Chine, usine du monde, c'est très bien, mais ce n'est pas les usines du 19e siècle, c'est les usines du 21e siècle. Alors il y a des usines du 19e siècle, les conditions de travail, etc., qu'on connaît, mais il y a aussi les usines du 21e siècle. Ça c'est le quatrième point vraiment important, c'est que les Chinois remontent pas à pas toutes les marches de la valeur ajoutée, et que, par conséquent, l'Occident, et encore une fois, hein, je parle aujourd'hui, je parle dans 5 ans, dans 10 ans, l'Occident ne va pas avoir, contrairement à ce qu'il croit encore aujourd'hui, le monopole, de l'intelligence. Et que cette vieille division du monde entre nous, on est les gens du Nord, on est intelligents, puis il y a les gens du Sud qui sont à la traîne, pour pas dire qu'ils sont bêtes et idiots, cette division-là ne marche plus. Et puis enfin, tous les partisans du libre-échange vont dire, oui, mais les consommateurs, ils gagnent. C'est clair que dans certains domaines, les consommateurs y gagnent. C'est vrai aussi que, je prends le domaine du textile, en 2005, année d'ouverture, la fin des quotas, etc., les prix du textile en France ont moins baissé qu'en 2004, parce que l'essentiel a été, des marges a été chez les distributeurs chez les marques. Donc, il ne s'agit pas de dire c'est bien en général ou c'est mal en général. Il s'agit de reconnaître que déjà avant ça marchait pas, on reviendra peut-être sur les vrais chiffres du chômage, mais que en tout cas aujourd'hui et tendanciellement, c'est clair que ça ne peut plus fonctionner. Et moi il me semble que c'est ce qu'ont dit les Français en 2005, moi j'étais à Matignon, j'ai voté oui, pour des raisons notamment techniques, parce que le traité donnait plus de poids à la France, mais je pense qu'il faut entendre ce qu'ils vont dire, enfin ce qu'ils ont dit et ce qu'ils vont dire bientôt à l'élection. Là on est toujours dans un système fermé. Moi, je sais qu'il va y avoir des surprises colossales à l'élection et aux législatives. On peut très bien se retrouver avec une cohabitation, on peut très bien se retrouver avec des phénomènes complètement inattendus. Un Le Pen qui continue de monter, un Bayrou qui est aujourd'hui sur le positionnement en fait de Le Pen d'une certaine manière, etc. Enfin bon, le système est en crise et comme dit Chirac, la maison brûle et nous regardons ailleurs.
Des sous et des hommes sur Alire FM et on est toujours en compagnie d'Hakim El-Karoui. Alors pour une fois, on était dans un endroit calme, mais vous l'aurez remarqué sans doute, misère, il avait posé à côté de lui un bizarre rectangle métallique, un objet high-tech que je n'avais pas identifié complètement, sans doute une sorte de PC de poche. Et ces trucs-là, imaginez-vous que ça émet des ondes. Les très désagréables grésillements au cours de l'émission, c'est ça, et c'est nouveau dans des sous. Suite de notre entretien avec Hakim El-Karoui.
Et donc, face à tout ça, vous proposez, vous préconisez un protectionnisme européen, très vilain mot, ça.
Oui. Alors, protectionnisme, c'est effectivement un très vilain mot, xénophobe, fasciste. Bon, ça suffira. En gros, xénophobe. Hein. Ce qui est assez extraordinaire, s'agissant d'une façon de réguler les échanges commerciaux internationaux. Hein. Alors en fait, il y a évidemment des vraies raisons historiques et surtout des contresens historiques majeurs. On dit, d'abord on confond le protectionnisme et l'autarcie. Moi l'image que j'emploie, c'est pas l'image d'une muraille de Chine ou d'une barrière, c'est l'image d'une écluse. Une écluse, c'est quoi? Ben, c'est un instrument par lequel on régule et finalement on joue sur le temps. Donc il ne s'agit pas de dire on ne va plus échanger avec la Chine ou avec l'Inde, il s'agit de dire on va juste réguler ces échanges-là et puis faire en sorte que, d'une façon ou d'une autre, on puisse redonner un petit peu de compétitivité aux salariés européens et pourquoi pas américains, et puis en même temps peut-être inciter les Chinois indirectement à développer plus leur marché intérieur, quitte à faire de la protection sociale. Mais mon idée, c'est vraiment pas qu'il faut dire aux Chinois quel est le bon mode de développement à suivre. Ça, là aussi, les Européens sont très forts pour donner des leçons. Il ne s'agit pas de donner des leçons, il s'agit de dire on a un ensemble, des gens qu'on veut protéger, pas parce qu'on est frileux et qu'on veut créer des rentes, mais tout simplement parce que derrière, il y a la cohésion des sociétés, il y a l'avenir quand même dans un certain nombre de millions de personnes, et que vu le rythme où ça va, ça marche plus et c'est ce qu'ils disent. Donc, en fait, c'est juste démocratique. Donc, je crois que l'idée du protectionnisme, il y a l'idée... le dernier avoir fait du protectionnisme, c'était Hitler. Hein, on oublie juste que les États-Unis ont été protectionnistes de leur naissance à peu près jusqu'aux années 1970. Hein, que l'Europe s'est construite dans un grand marché de plus en plus... construit à l'intérieur, enfin ou de plus en plus libéré, si vous voulez, et puis avec des frontières commerciale extérieure très claire. L'Europe de 56 à 73, c'était ça. C'était on construit petit à petit un grand marché intérieur, donc on lève les barrières internes et on garde des barrières externes. En 73, ça a été cassé pour deux raisons. L'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe, mais surtout les efforts des États-Unis via différents rounds du GATT, qui, au fur et à mesure que l'Europe construisait son marché intérieur, demandait la levée des barrières extérieures. Voilà, alors il y a d'autres idées reçues, je ne vais pas toutes les passer en revue sur le protectionnisme. Il y a l'idée que ça a créé la crise de 29, alors que c'est exactement l'inverse. C'est la crise de 29 qui a créé une renationalisation des politiques commerciales. Et la dernière idée qui est vraiment très importante, c'est que le libre-échange crée de la croissance, hein. Et le protectionnisme crée de la dépression. Quand on regarde l'histoire économique, on se rend compte que c'est exactement l'inverse. Que au 19e moment, la première mondialisation, 1870-1914, où il y avait un taux d'exposition aux échanges internationaux extrêmement important, encore plus important qu'aujourd'hui, il y a eu plus de croissance quand il y a eu plus de protectionnisme. Pour une raison simple, c'est que le protectionnisme permet le développement du marché intérieur, le libre-échange casse le marché intérieur. Donc il faut trouver un équilibre. Encore une fois, c'est une question de régulation. Et si on ne veut pas trouver cet équilibre, on crée un système qui polarise les économies, qui polarise les sociétés, qui, à mon avis, aujourd'hui est porteur de délitement social et vraiment de risques politiques majeurs.
Et pourquoi choisir l'Europe?
L'Europe, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison économique et une raison politique. La raison économique, c'est que le risque du protectionnisme, parce qu'il y en a, c'est de créer des rentes. Et quand on fait du protectionnisme sur des marchés qui sont trop petits, on crée des rentes en fait assez rapidement parce qu'il n'y a plus de concurrence. Et évidemment, l'idée du protectionnisme s'inscrit dans l'économie de marché, pas contre l'économie de marché ou même contre l'économie libérale. On peut être libéral libre-échangiste et libéral protectionniste. Donc il y a une question de taille. Ensuite, qui est lié à la taille, quand on a un marché comme aujourd'hui l'Europe de 500 millions d'habitants, qui est le premier marché du monde, on peut considérer que le risque de la rente est faible. Parce qu'il y a de la concurrence interne qui est très forte. Et en même temps, même si il y aurait beaucoup à dire sur les nouveaux adhérents, il y a quand même une forme de régulation parce qu'il y a des législations sociales, fiscales, qui sont évidemment pas les mêmes, mais qui sont quand même en voie de convergence, en tout cas qui sont plus proches à l'intérieur de l'Europe qu'à l'extérieur de l'Europe. Et puis, il y a aussi de la redistribution via les aides européennes. Ce qui manque, c'est notamment les mouvements de personnes. Mais bon, donc il y a une vraie raison économique. Et puis, la raison politique, qui est encore, à mon avis, plus importante, c'est aujourd'hui l'Europe s'est inscrite dans un schéma où, en fait, tous les États se font concurrence entre eux. On voit très bien la concurrence fiscale en ce moment. Ce qu'on voit moins, c'est le choix de l'Allemagne de la compétitivité à tout prix, qui est très cohérent avec le système. C'est l'agenda 2010 de Schröder qui rentre maintenant en application. Ça a redonné de la compétitivité aux entreprises allemandes à l'exportation. Le problème, c'est que ça s'est fait au détriment du marché intérieur. Et donc au détriment de la consommation allemande de produits importés en Allemagne, notamment européens. Et une bonne partie du déficit commercial français et italien aujourd'hui, c'est la sous-consommation allemande. Donc le protectionnisme, ça a un intérêt, c'est que ça crée un intérêt général commun. Et le cas de l'Allemagne est très intéressant. Au 19e siècle, les États allemands, les principautés allemandes, en 1834, ont fait le Zollverein. Et puis 40 ans après, elles ont fait l'Union, qui n'avait pas été possible parce qu'il y avait eu jusqu'à présent des intérêts divergents. À partir du moment où on crée un grand marché intérieur avec des frontières commerciales extérieures, en fait, on crée un espace d'intérêt commun. Et le vrai problème de l'Europe aujourd'hui, c'est de recréer cet espace d'intérêt commun qui a complètement disparu. Et vu la taille des ensembles avec lesquels il faut dialoguer, ensemble américain, ensemble chinois, ensemble indien, il faut le faire à la bonne taille. Et cette taille ne peut être qu'européenne. Alors ce qui pose un autre problème, qui est celui de la mise en œuvre.
Moi j'aurais tendance à vous dire, mais ça ne sera jamais possible de mettre en place un protectionnisme au niveau européen, parce que les forces politiques ne sont pas prêtes à ça dans les différents pays.
J'aurais tendance à vous dire que vous n'avez pas complètement tort, je ne devrais pas, mais quand on analyse les forces politiques en présence au niveau européen, on voit bien qu'à l'intérieur de l'Europe, c'est une idée qui d'une certaine manière n'existe pas. Mais qui pourtant, à mon avis, peut s'appuyer sur 5 ans, hein, sur un quinquennat, hein, sur des soutiens. Alors, notamment parmi les fondateurs de l'Europe, commencé par les luxembourgeois, qui n'ont pas de problèmes commerciaux, parce qu'ils n'ont pas d'industrie manufacturière, mais qui ont une certaine idée de l'Europe. Juncker, par exemple, n'est pas du tout hostile à ce genre d'idée. Je pense que l'Italie économiquement a toutes les raisons du monde de se rallier à ce genre d'idée. Il se trouve que Prodi, etc., et veut être dans le dogme et dans la norme, donc il aura une difficulté intellectuelle, mais je ne pense pas politique. Ensuite, il y a les pays de l'Est qui aujourd'hui profitent à plein des délocalisations allemandes, hein, puisque la croissance de l'Allemagne se fait via les pays de l'Est, et on peut, je pense, à hauteur de 3-4 ans, leur expliquer que c'est parti chez eux, mais demain, ce qui est chez eux partira au plus près des marchés, donc en Asie, etc. Puis il y a les pays du Nord. Les pays du Nord, il n'y a aucune chance avec eux. Ils sont une logique qui est totalement différente, évidemment, à commencer par l'Angleterre. Et puis il y a le vrai débat avec l'Allemagne, qui est le nœud du sujet. Moi, je pense que les Allemands ont fait un choix qui est vraiment, clairement, totalement opposé. Ils ont un rendez-vous politique en 2008-2009. On verra bien si ça fonctionne en 2008-2009. Ça a marché cette année parce qu'il y avait un effet de rattrapage, parce qu'il y avait la peur de la TVA. Moi, je pense que ça ne marchera pas en 2008-2009, que les profits allemands aujourd'hui vont aux grandes entreprises, à certaines PME importantes qui exportent, mais ne vont pas du tout aux salariés, mais pas du tout. Donc la question, c'est est-ce que les salariés allemands vont se révolter contre ce système? Quant aux Français, il y a quand même une légitimité démocratique à poser une question sur la réorientation de l'Europe, c'est le référendum de 2005. Moi, ma volonté, c'était que ce débat-là soit dans la présidentielle de 2007, qui soit portée par un candidat, et à mon avis, y gagner l'élection avec ça, ce qui permettait d'avoir une légitimité démocratique pour en discuter avec nos partenaires européens, même si a priori, ils sont idéologiquement contre.
Et oui, donc, c'était des sous et des hommes en compagnie de Hakim El-Karoui. Alors Hakim El-Karoui, je vous le rappelle, a écrit un livre qui s'appelle L'avenir d'une exception, c'est aux éditions Flammarion, et dans la première partie, il développe très finement la notion de troisième mondialisation qu'il a explicitée en première partie de cette émission. Eh bien, on retrouvera Hakim El-Karoui pendant 2 semaines. En attendant, je ne peux que vous conseiller la lecture de son livre vraiment absolument passionnant. Et puis autrement, vous pouvez aussi visiter le site qu'il anime, www.protectionnisme.eu. Vous y retrouverez des textes d'invités de Dessous, des invités que, pour ma part, j'avais trouvé particulièrement remarquables, Jacques Sapir et Jean-Luc Gréau. Voilà, à la semaine prochaine avec Hakim El-Karoui, et puis encore pour 2 semaines. À bientôt.